Rencontre avec Loïc Barrière sur Radio Orient.
L'invité de rencontre est Mustapha Benjafar, secrétaire général d'Etacatol et président de l'Assemblée constituante en Tunisie. Bonjour.
Bonjour.
Alors, première question, Istanbul a été la cible d'un attentat meurtrier après tant de villes comme Tunis ou Sousse, mais aussi Paris, Bruxelles, Ouagadougou, la liste est malheureusement très longue. Quelle est votre réaction après cet attentat à Istanbul ?
Une condamnation, évidemment... très très nette et sans absolument aucune hésitation ni nuance de cet acte odieux qui touche à des vies humaines innocentes. Évidemment, nous savons malheureusement tous qu'il va falloir cohabiter avec ce fléau qui est le terrorisme. Nous savons qu'il n'a pas de frontières, comme vous venez de le rappeler. Et la seule réponse, encore une fois, même si j'en pense des portes ouvertes, c'est d'une part... le maximum de coordination internationale pour mettre tous les moyens en œuvre pour combattre justement ce fléau et deuxièmement ne pas le faire aux dépens des libertés, c'est-à-dire je reste convaincu que la démocratie et le respect des libertés et des droits de l'homme sont le meilleur rempart contre le terrorisme.
La presse tunisienne affirme que l'une des victimes était tunisienne, Fathi Bayoud, chef du service de pédiatrie à l'hôpital militaire de Tunis. Vous êtes vous-même médecin. On dit qu'il se trouvait en Turquie pour tenter d'obtenir le rapatriement de son fils incarcéré après avoir rejoint Daesh en Syrie. C'est une histoire terrible.
Cela prouve la complexité de certaines situations. Je ne connais pas les détails de cette affaire. Évidemment, c'est une occasion pour présenter mes condoléances à toutes les victimes et à tous les parents de victimes et en premier lieu à mon confrère tunisien. Mais voilà, justement, cela prouve que le terrorisme n'a pas de frontières géographiques, mais n'a pas aussi de frontières thématiques.
Mustapha Benjafar, cette semaine, la Tunisie a demandé au Royaume-Uni de ne plus déconseiller votre pays à ses ressortissants. Tunis assure que toutes les mesures de sécurité ont été prises un an après l'attentat de Sousse, attentat au cours duquel 30 Britanniques avaient été assassinés. Aujourd'hui, vous nous confirmez que les mesures de sécurité ont été améliorées.
Je ne suis pas le ministre de l'Intérieur et encore moins le ministre de la Défense, mais le sentiment que j'ai, c'est qu'au fil des années, les forces de sécurité tunisiennes sont mieux organisées, mieux coordonnées entre les différents corps, parce qu'il y a l'armée, la police et la garde nationale. Je pense qu'il y a une... très très bonne coordination avec nos frères algériens et c'est important d'avoir des frontières sûres et sécurisées. Je pense qu'il y a eu des avancées en matière de protection, de prévention et un peu d'anticipation. Mais comme vous le venez de le rappeler, les pays les mieux outillés, les pays qui disposent des meilleurs équipements, des meilleures techniques, ne sont pas totalement à 100% à l'abri de ce genre d'actes. Donc, pas de fanfaronnade, mais je dis que la Tunisie est un pays où il fait bon vivre et où la sécurité est globalement assurée, pas mieux ni moins que dans d'autres pays qui ont l'habitude justement de lutter contre le terrorisme. Nous venons de vivre un drame à Istanbul et vous avez rappelé les drames qu'on a vécu à Paris et ailleurs.
Un pays où il fait bon vivre, on est en été, vous conseillez aux Français, aux Tunisiens de France, à tous les amis de la Tunisie d'aller en Tunisie cet été?
Oui, je n'ai absolument aucune réserve à dire ce que vous venez de me suggérer, mais cela ne veut pas dire qu'il y a un risque zéro.
Alors au début du Ramadan, le président belge Haïdé Sepsi a appelé à la formation d'un gouvernement d'union nationale. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je suis vraiment partagé et interloqué. Je suis partagé parce que l'idée, dans une situation telle que la Tunisie traverse, ne peut pas être considérée comme une idée saugrenue. Moi-même, au lendemain des élections de 2011, j'ai appelé à la constitution d'un gouvernement d'union nationale, mais c'était immédiatement à l'annonce des résultats qui ont, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui ont fait la composition dominée par le parti islamiste à l'époque et où les forces du centre et de la gauche étaient un peu marginalisées et n'ont pas obtenu ce qu'elles attendaient. Malheureusement, on n'avait pas été entendu à l'époque et on ne peut que le regretter. Aujourd'hui, ce qui est paradoxal, c'est que le gouvernement dispose d'une majorité plus que confortable, une majorité des deux tiers à l'Assemblée des représentants du peuple, et on ne voit vraiment pas ce qui, mathématiquement, pourrait apporter un meilleur soutien que cette majorité confortable. On pourrait nous avancer l'idée que non, nous voulons rassembler tout le monde. La vérité, c'est que ça n'est pas le cas. Mon parti n'a même pas été invité pour consultation. Donc, tous les partis politiques et toutes les composantes de la société civile n'ont pas toutes été invitées à ce dialogue. Donc, l'idée, c'est un peu, on pourrait appeler une sorte de session de rattrapage à l'actuel gouvernement qui, au terme d'une année et demie de gouvernement et de gouvernance, n'a pas réussi. Et je ne veux pas être très méchant pour dire que c'est un échec lamentable. Mais on veut essayer, par un tour de passe-passe, de reconduire un gouvernement avec la même majorité, mais maintenant sous le vocable d'unité nationale. Alors, et je crains fort que ce ne soit seulement un tour de passe-passe.
Mansef Marzouki semble plus sévère que vous. Votre ancien partenaire de la coalition en Tunisie, il estime que l'appel à la formation d'un gouvernement d'union nationale est de la part du président un aveu de son échec personnel. Vous partagez ce point de vue ?
Je ne veux pas traiter ce genre de problème très très sérieux en tombant dans la polémique. Nous en avons tellement souffert au cours des dernières années qui ont précédé les élections de 2014 pour dire aujourd'hui arrêtons le cirque. Arrêtons le cirque et occupons-nous sérieusement des affaires de la Tunisie. Et aujourd'hui, les affaires de la Tunisie exigent des solutions sérieuses, des réformes très importantes. Et ces réformes ne peuvent pas être faites dans le cadre du consensus. Parce qu'il y a des choix, des orientations, un nouveau mode de développement. Il faudrait qu'on se mette sérieusement à discuter de cela.
On va discuter du fond, mais pourquoi le parti Etakatol que vous dirigez n'a-t-il pas été consulté ?
Ah, ça, il faudrait poser la question à M. le Président de la République.
Mais
pourquoi il n'a pas invité ?
Idée.
Non, je n'ai pas d'idée. Je sais qu'on a invité les gens qui ont déjà dit oui au desiderata du palais de Carthage. Tout le monde connaît notre position critique, mais toujours sérieuse. Nous avons des alternatives à proposer. Nous sommes conscients que ces alternatives, aujourd'hui, vu notre faible ou même inexistante représentation dans les institutions représentatives et essentiellement l'Assemblée des représentants du peuple, donc nous n'avons pas tendance à crier, à faire cocorico, non, mais je pense que aujourd'hui on préfère entendre les voix laudatives.
Pourquoi les résultats ne sont pas au rendez-vous en termes d'emploi et d'économie, Mustapha Benjafar ?
Tout simplement, nous l'avons dit à plusieurs reprises, sans vouloir tomber encore une fois dans la polémique, nous avons dit que le gouvernement actuel, qui a été formé de briques et de brocs, n'oublions pas que pendant les trois ans 2011-2014, c'est-à-dire entre les deux élections, les deux principaux partis qui dirigent aujourd'hui en coalition le pays se sont diabolisés mutuellement pendant trois ans. Donc ils n'ont même pas eu l'idée de réfléchir sur une vision commune et sur un programme commun. Or, le pays, aujourd'hui, a besoin que cette majorité nous présente un programme cohérent. Il n'en est rien. Un an et demi après l'installation de ce gouvernement, il n'y a ni vision, ni programme, ni réforme mise en place.
Si vous aviez la possibilité de diriger ce gouvernement d'union nationale, visiblement, ça n'est pas d'actualité puisque vous n'avez même pas été consulté. Quelles premières mesures prendriez-vous là tout de suite ?
Il n'y a pas de mesures. Il y a une approche globale, mais cohérente. D'abord, nous avons une constitution qui est un socle pour la construction démocratique. Respectons-la. Or, aujourd'hui, et c'est quand même paradoxal que parallèlement à cet appel pour une constitution de gouvernement d'union nationale, on remet encore sur la table une loi qui s'appelle une loi de réconciliation économique ou réconciliation nationale, qui a été rejetée par l'ensemble de la société civile, beaucoup de partis, qui a été très critiquée au plan international et qui revient à dire passons l'éponge sur tout les actes de corruption du passé et faisons table rase et installons une sorte d'amnistie générale en faveur des corrompus. Alors, vous voyez, d'un côté, on appelle à l'Union nationale, d'un autre côté, on essaie de faire passer quelque chose qui n'a absolument aucun consensus autour de cela. Alors, mais pour répondre encore plus précisément à votre question, je vous dis, ce qui manque aujourd'hui, c'est une démarche claire. Renforcer la démocratie qui est encore très fragile, qui est à ses débuts, en respectant la Constitution, en mettant en place les institutions prévues par la Constitution.
Lesquelles ?
Le Conseil supérieur de la magistrature. Il aurait dû être mis en place au mois de mai 2015. Nous sommes 2016. La Cour constitutionnelle qui aurait dû être mise en place en novembre 2015. Elle va avoir un retard d'un an. Tout cela, c'est très très important. Et puis, venir, quel est le modèle de développement qu'on veut installer ? Et dire à ces jeunes qui attendent, à ces marginalisés, à ces régions qui ont été complètement oubliées au cours des deux ou trois dernières décades, voilà ce que nous allons faire aujourd'hui, voilà ce que nous allons faire demain. Vous avez patienté beaucoup, ça fait 5 ans que la révolution quand même a eu lieu. On ne s'est pas occupé de vous parce qu'on s'est occupé de choses institutionnelles. Pardonnez-nous. Nous avons eu tort de ne pas nous occuper de ces questions brûlantes, mais voilà ce que nous allons faire aujourd'hui, demain, après-demain, et au bout d'un certain temps, nous allons résoudre ce problème qui est dramatique, le problème du chômage, et nous allons faire de tout notre mieux possible pour réduire les disparités entre les régions côtières et les régions de l'intérieur.
Vous êtes de gauche, Mustapha Ben Jaafar.
Oui, cela m'honore.
Quelle est la réponse que vous avez justement pour lutter contre le chômage des jeunes, puisque finalement c'était le cœur de la révolution, oui. C'est ce qui explique en partie la révolution 2011.
Écoutez, pour créer des emplois, il faut des investissements. Pour aller vite, évidemment, il faut tout un plan cohérent qui touche beaucoup de secteurs, malheureusement, qui ont besoin de réformes. Aujourd'hui, en premier lieu, pour répondre à la question du chômage, parce qu'elle est liée à la question de la formation, il faut revoir tout notre système d'éducation, d'enseignement et de formation. Ça, c'est essentiel. Mais dans l'urgence, il faut qu'il y ait de l'investissement pour avoir des emplois. Et pour avoir de l'investissement, il faut créer un climat favorable à l'investissement. Et ce climat, c'est la lutte contre la corruption, c'est d'avoir des lois stables qui ne bougent pas d'un instant à un autre à la tête du client. Et bien entendu, la question de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme, c'est une question qui restera récurrente encore quelque temps. Mais d'abord, créer un climat où il est clair qu'on doit lutter d'une manière très énergique contre la corruption, parce qu'elle mine, c'est un véritable cancer qui est en train de miner notre économie.
Vous êtes en train de nous dire que la corruption continue malgré le départ des corrompus, de la famille Ben Ali ?
Nous n'avons sérieusement, et là tous les gouvernements qui se sont succédés, y compris au moment de la Troïka, nous n'avons pas mis cette question fondamentale au cœur de notre programme. Bon, on pouvait dire qu'à un certain temps, on était dans le provisoire, on était occupé par la Constitution, par des choses très très importantes. Aujourd'hui, nous n'avons rien qui puisse justifier encore cette hésitation. Il faut combattre de la manière la plus ferme la corruption sous toutes ses formes, à rétablir aussi une justice fiscale. Aujourd'hui, il y a une fuite de la fiscalité et qui fait que réellement le gouvernement, le pouvoir politique ne dispose pas des moyens dont il pourrait disposer s'il faisait l'effort nécessaire dans ce sens.
La réconciliation demandée par les partisans du pouvoir actuel ne vous satisfait pas pour l'instant, car vous considérez que c'est passer l'éponge sur la corruption passée.
Vous savez, c'est pas une question personnelle d'appréciation. Moi, ceux qui me connaissent savent très très bien que ces sentiments de vengeance ou de règlement de compte ne m'effleurent même pas. Moi, je dis qu'il y a une constitution à respecter. Cette constitution a mis et instauré, a mis en place, elle a instauré une instance qui s'appelle l'instance vérité et dignité. Il y a un processus de justice transitionnelle qui est mis en place, qui est en train maintenant de fonctionner, qui a donné des preuves que les gens y croient, qu'ils ont confiance. Ce processus, on a mis 2 ans pour le mettre en place, pour le discuter avec des ONG nationales, internationales. Laissons ce processus se faire progresser dans la sérénité et n'essayons pas de le parasiter ou, pire encore, de le vider de sa substance.
Ce processus, ça pourrait être comparé à ce qui s'est passé en Afrique du Sud après l'abolition de l'apartheid ?
Absolument, les principes sont les mêmes, c'est-à-dire dire la vérité, passer peut-être par une formule d'excuse ou de pardon, mettre tout sur la table. Et puis, lutter contre l'impunité et tourner vraiment la page. Et à ce moment-là, on a une réconciliation durable.
Mustapha Benjafar, la France a toujours proclamé son attachement à la Tunisie, au processus démocratique en cours. Vous connaissez le proverbe, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Est-ce que vous avez assez de preuves de cet attachement concrètement aujourd'hui ?
Écoutez, moi je crois que les relations entre la Tunisie et la France sont au beau fixe. Et comme vous voyez, il y a des allées, des retours, des échanges entre les responsables au plus haut niveau, sans même faire de distinguo entre les politiques et les officiels. Évidemment, on peut toujours dire qu'elle pourrait faire mieux, parce qu'elle est un des grands leaders de l'Union européenne. Et nous avons, nous, aujourd'hui, en discussion, quelque chose de très très important, cet accord de libre-échange avec l'Union européenne. Et je pense qu'il devrait aller dans le sens que nous avons toujours souhaité, même du temps de la dictature, c'est-à-dire qu'il s'insère dans le cadre d'une stratégie de co-développement, qu'il soit beaucoup plus équilibré et qu'il ne perpétue pas ce décalage énorme entre la rive sud et la rive nord de la Méditerranée.
Le parti Ennahda avec lequel vous avez gouverné annonce avoir changé lors de son dernier congrès. Ennahda a voté la séparation du religieux et du politique au sein du parti. Est-ce que c'est vraiment la fin de l'islam politique dans la plus grande formation tunisienne ? Est-ce que vous croyez vraiment à la sincérité d'Ennahda ?
Ce problème-là se pose depuis des années et des années. Notre attitude, même au cours des années 70, parce que je ne suis pas tout jeune dans la politique, nous avons dit que sur la question des libertés, les libertés sont indivises. Et nous avons refusé tout autant la répression dont ont été victimes les forces de gauche, progressistes, modernistes, que les forces islamistes. Ça, c'est un premier point pour nous capital. Il est constant, il est permanent, quelle que soit l'évolution de la situation. Donc, liberté, société de citoyens. Voilà pourquoi nous avons toujours milité pendant toute notre vie. Maintenant, vis-à-vis des islamistes, il y a 2 camps. Il y a ceux qui disent « ils mentent ». Ils racontent des histoires, ils cachent la vérité, c'est de la tactique, ils sont en train d'améliorer la vitrine, de la soigner, mais derrière la vitrine, il y a toujours des gens qui sont prêts à sauter sur leur proie, à revenir au radicalisme et ainsi de suite. Il y a les autres, qui sont à mon avis naïfs, qui disent non, ça y est, ils ont évolué, c'est terminé, le problème est réglé. C'est entre les deux. C'est-à-dire que nous, en tant que démocrates, nous devons être vigilants. Mais nous ne devons plus leur faire systématiquement un procès d'intention. Nous avons fait un pari, nous, puisque nous nous sommes coalisés avec eux dans une équipe gouvernementale et nous les connaissons de l'intérieur. Nous savons qu'ils sont capables d'évoluer, de faire des concessions. Et la meilleure preuve, nous l'avons entre nos mains aujourd'hui, qui est la constitution tunisienne. Relisez-la, malgré quelques ambiguïtés. C'est une constitution moderniste, progressiste, ouverte, qui consacre tous les droits et toutes les libertés. Qu'est-ce qu'on demande de plus ?
Vous êtes l'un des pères de cette constitution tunisienne, Mustapha Benjafar, président de l'Assemblée qui a permis la naissance de cette constitution. C'est votre rôle aujourd'hui en Tunisie, notamment être le gardien scrupuleux de cette constitution ?
Moi, je suis respectueux des institutions. Et je pense que le véritable gardien, aujourd'hui, ce sont les institutions républicaines et, en premier lieu, le président de la République, le chef de l'État. Il est et doit être le garant de la Constitution. C'est pour cela que, encore une fois, je l'appelle à veiller scrupuleusement au respect de ce texte qui n'a aucune valeur s'il n'est pas respecté et mis en application.
Dernière question, il nous reste quelques secondes, c'est bientôt la fin du Ramadan. Quel message souhaitez-vous adresser aux auditeurs de Radio Orient à l'approche de l'Aïd ?
Paix, amour et le bien vivre ensemble. Et l'avenir est prometteur. Nous avons, heureusement, en Tunisie et ailleurs, une jeunesse qui est vraiment très, très prometteuse et à laquelle nous devons réellement accorder toute notre confiance pour la construction d'un avenir meilleur.
Merci, Mustapha Benjafar, d'être venu sur le plateau de Radio Orient. Je rappelle que vous êtes secrétaire général d'État Catol et président de l'Assemblée constituante en Tunisie. Merci à vous.
Rencontre avec Loïc Barrière sur Radio Orient.